Bienvenue dans cette émission du lundi 29 mai. Je souhaite bien entendu une joyeuse Pentecôte à tous les chrétiens et à toutes les personnes de toutes les confessions, convictions ou absence de confession ou conviction, que l'esprit de vérité, d'honnêteté intellectuelle et d'intégrité nous guide tous, car il y a encore fort à faire. Alors, il y a eu un coup de tonnerre ce week-end en France avec une attaque massive de certaines officines de propagande qu'on appelle encore des médias mais à tort et sociétés soi-disant médicales en réalité surtout véreuses contre Didier Raoult et l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection avec vraiment une campagne d'une virulence mais absolument insensée. Alors, pour donner un peu sens à ce qu'il se passe, il faut remonter à il y a un mois et demi en arrière, et l'IHU a finalement publié sa série, une étude rétrospective de cas portant sur plus de 30 000 patients soignés, précocement avec la trithérapie recommandée à Marseille. Et comme on le voit, le pourcentage de décès dans toutes les catégories s'est montré bien plus faible, de manière hautement significative, à l'IHU que dans les autres centres de France où des patients étaient soignés. Donc par exemple, pour les moins de 60 ans, à l'IHU, il y a eu 2,6% de décès. En France, ce taux était à 16%, à Paris, 19%. Dans cette réalité, ou ailleurs qu'à l'IHU, les patients n'étaient pas soignés. Et donc Didier Raoult a publié en préprint avec son équipe, avec une quinzaine de co-auteurs, parmi les plus prestigieux infectiologues, immunologues et microbiologistes de France, ces résultats. Tout a été vérifié par huissier de justice de sorte à ce qu'il n'y ait pas de contestation possible sur les données elles-mêmes. Le résultat est significatif et Didier Raoult soulignait, notamment au micro d'André Bercoff, que l'Agence nationale de sécurité du médicament est très énervée, parce que ce que cela veut dire en réalité, c'est que si on avait soigné les gens comme l'IHU a recommandé de le faire, des milliers de personnes auraient été sauvées. Et donc, il s'agit d'un homicide, au moins par négligence, mais l'intention était là, étant donné que ça a été une décision délibérée du politique, et notamment du ministre de la Santé, d'alors Olivier Véran. On a laissé mourir des gens que l'on aurait pu soigner et sauver de manière intentionnelle. Et donc, Didier Raoult concluait que la Cour de justice de la République devait être saisie. Alors quand on se penche sur les données, une étude rétrospective de cas, de mon point de vue, c'est probablement le plus robuste en termes de méthodologie, presque encore plus que l'essai randomisé contrôlé en double aveugle. Pourquoi ? Parce qu'on observe ce qui s'est produit. On a soigné des gens avec un appariement, c'est-à-dire vraiment des caractéristiques comparables entre les gens qu'on a soignés et ceux qui n'ont pas été soignés ailleurs. On compare le résultat. Et vous voyez, comme Hélène Balloun, du Conseil scientifique indépendant, le relève, le total, le résultat, c'est qu'il y a eu une réduction de 71% de la mortalité, et encore plus chez les plus de 80 ans. Donc, c'est indiscutable. Et ça, évidemment que c'est compliqué, parce que cela prouve, hein, et vraiment cela démontre de manière absolument incontestable, il faut qu'il y ait toujours du doute et de la remise en question en science, mais quand vous arrivez avec des séries rétrospectives de cette robustesse, voyez, c'est comme les antibiotiques contre le bacille de la peste. Quand vous sauvez des gens en leur donnant des antibiotiques, alors que les gens qui ne disposaient pas des antibiotiques auparavant en mouraient, il y a un moment donné où la question est tranchée. Et c'est ce qui se passe avec une étude de cette envergure et de cette qualité. Alors, on a aussi dit que l'IHU ne soignait que des personnes jeunes et en bonne santé. C'est totalement faux. Vous voyez, Éric Chabrière a isolé, par exemple, pratiquement 300 jeunes de plus de 89 ans, dit-il, qui figuraient dans l'étude. Et évidemment que cette pré-publication, ce pré-print, a vraiment eu énormément d'écho à travers le monde. Donc là, vous voyez la traduction d'un tweet en Australie, où les auteurs énoncent un traitement précoce à la trithérapie, bien sûr, c'est pas l'hydroxychloroquine seule, c'est avec l'azithromycine et le zinc. Il faut savoir que l'hydroxychloroquine a été remplacée par l'ivermectine à Marseille à partir du variant Omicron, parce qu'il apparaissait que l'hydroxychloroquine était moins utile contre ce variant-là, et donc ça aurait pu sauver la vie d'au moins 13 500 Australiens. Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement australien, suivant aveuglément les recommandations malfaisantes des autorités de santé mondiales, a laissé mourir 13 500 Australiens qu'on aurait pu sauver. C'est ça que ça veut dire en français. Et donc, les auteurs disent, nous avons toujours des malfaiteurs criminels qui dirigent nos bureaucraties de la santé et des politiciens couvrant leur cul. Alors, c'est une traduction de « covering your ass » en anglais. C'est un petit peu moins trivial en anglais que ça ne sonne en français, mais enfin, on comprend l'idée. Affirmant toujours qu'il n'y avait aucune preuve pour soutenir la trithérapie. Au fond, ils ont préféré que des gens meurent que d'admettre qu'ils avaient tort. C'est un crime commis en plein jour et c'est un meurtre car ils n'ont aucune excuse. Pourtant, les médias restent silencieux. Que diable est-il arrivé à notre pays, se demandent les Australiens. Mais que diable est-il arrivé au monde entier? Ça n'est pas sans lien avec l'OMS, avec la mainmise de Bill Gates sur les opérations mondiales, évidemment. Je rappelle que la toute première étude de l'IHU, hein, vous voyez les résultats ici, ils ont évidemment été contestés par complément d'enquête, mais d'une manière qui était totalement fallacieuse. Donc vous voyez, la réduction de la charge virale, en bleu vous avez les gens non traités, la courbe orange c'est celle des gens traités avec l'hydroxychloroquine mais sans azithromycine, et puis en gris, le traitement avec ces deux composantes, et on voit un effet absolument indiscutable. Donc tout ceci était clair dès le mois de mars 2020, et pourtant, aujourd'hui encore, une dizaine de sociétés savantes, mais il faut mettre beaucoup de guillemets, dénoncent un essai clinique sauvage, là encore avec des guillemets, parce que ça ne correspond à aucune définition, sur plus de 30 000 patients, et donc on voit une campagne de presse orchestrée dans le journal du dimanche. Ça n'est pas anodin, voyez. Et dans Le Monde, une tribune de médecins dénonce les essais sauvages de Didier Raoult. Hein. Au fond, le grief, c'est le fait de dire il a réalisé une recherche qui n'aurait pas dû avoir lieu, et donc nous trouvons ça scandaleux. Martin Zizi, qui est ancien dirigeant épidémiologique au sein du département de la Défense belge et qui est un remarquable scientifique, lui répond du tac au tac, foutage de gueule ou jusqu'au boutisme politisé, et le soi-disant vaccin basé sur une technologie nouvelle non testée et non testable, car nous n'avons pas encore mis au point les outils protéiques nécessaires pour valider et contrôler ses effets génétiques, une gigantesque expérience meurtrière, et maintenant on vient chercher des noises à un médecin qui a soigné. Donc, les médecins en question demandent des sanctions contre Didier Raoult, mais Hélène Banoul, encore elle, répond, mais qui sont les scientifiques et les médecins honnêtes qui vont faire taire cette meute de chiens hurlants, des journalistes ignares, stupides et corrompus qui obéissent au biopouvoir? Et Hélène est en effet une grande connaisseur des théories sur le biopouvoir, notamment vulgarisées par Michel Foucault, et elle énonce cette réalité que le biopouvoir a mené un essai sur la population du monde entier avec un produit totalement expérimental, on voit lequel, et maintenant il accuse des médecins honnêtes et courageux qui ont sauvé des vies. Mais comment font tous ces gens inféodés à la doxa pour se regarder dans la glace le matin? Il y a une réponse psychopathologique qui tient dans ce que sont les manipulateurs pervers. Je vous rappelle, j'ai déjà décrit ce profil, qu'on appelle aussi pervers narcissique ou sociopathe. Il y a à peu près 4% de la population qui correspond à ce profil. Donc sur une assemblée de 200 personnes, vous aurez 8 manipulateurs pervers dans la salle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont arrivés massivement aux positions de pouvoir. Et c'est à eux qu'on donne la parole dans des organes de presse, plutôt qu'à des connaisseurs qui ne souffrent pas de cette psychopathologie extrêmement redoutable. Donc, un certain nombre de rappels. Les médecins ont la liberté de prescrire. Environ 70% des prescriptions en pédiatrie sont hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. C'est ce qu'a fait Didier Raoult avec ses équipes. C'est-à-dire que un remède est utilisé dans l'AMM quand on l'utilise pour les indications pour lesquelles l'autorisation avait été donnée. Mais on sait que les molécules sont polyvalentes pour la plupart. Elles ont d'autres utilités. Et donc, un médecin est libre d'utiliser une molécule en son âme et conscience dès lors qu'il a l'intime conviction et qu'il explique clairement à son patient à quoi elle sert, quelles sont les certitudes et les inconnues à son sujet. Accuser un médecin, relève Kader Hamish, de réaliser des essais thérapeutiques parce qu'il fait son métier qui est de soigner avec un médicament qui a fait ses preuves est une très grave accusation. Ces gens mériteraient que Raoult leur fasse un procès. En tout cas, ils ont déjà gagné notre mépris, on ne saurait mieux dire. Et donc Didier Raoult, dans une réponse au Monde, a rétorqué « Le vrai problème est que nous avons 100 tricheries possibles. » Et c'est ça son doute, qui est à l'origine de la fureur enragée de ces médecins participants au système de corruption systémique, c'est que la dernière démonstration de l'IHU est incontestable. Et donc, avec ce protocole, Raoult relève qu'ils ont obtenu à l'IHU le taux de mortalité de patients hospitalisés et oxygénodépendants le plus bas au monde. Et, dit-il, les interprétations fallacieuses de la réglementation ne sont là que pour cacher ce résultat. Donc vraiment, nous avons des gens comme Alain Fischer, le responsable de la politique vaccinale en France, Loni Besançon, qui est un espèce de sale type des réseaux sociaux, qui est un harceleur chronique, Mathieu Molimar, Dominique Costagliola, qui sont toujours les mêmes harceleurs, qui se manifestent de manière totalement débridée contre Raoult et contre tous les médecins qui ont soigné avec succès des patients. Alors, si on fait un zoom out, vous voyez, Peter McCullough, le très grand cardiologue américain, lui résume les choses à l'essentiel. Bill Gates et Anthony Fauci, donc les services de santé publique américains, ont financé l'organisation EcoHealth Alliance qui a créé le SARS-CoV-2 en laboratoire à Wuhan. Ils ont mis des représentants dans les agences de santé pour supprimer l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, interdire tous les traitements précoces, quel que soit le nombre de victimes, de sorte à pouvoir faire passer une autorisation d'urgence pour les injections géniques expérimentales. Ils savaient très bien que les traitements précoces étaient efficaces contre le Covid-19 et qu'ils sauveraient, là on parle de millions de vies à l'échelle planétaire, mais ils s'en sont fichus parce qu'ils savaient qu'ils pourraient réaliser des milliards de bénéfices avec les injections géniques inefficaces mises sur le marché. C'est ça le fond de l'histoire. Et tous ceux qui sont trop naïfs ou trop intéressés pour s'en rendre compte sont simplement en train de patauger à des années-lumière du cœur de la réalité dont on parle. Alors, voyons à qui nous avons affaire. François Raffi a attaqué inlassablement le professeur Raoult avec tous les sujets les plus faux les uns que les autres qu'il trouvait, a reçu 611 000 euros de cadeaux de Big Pharma. En termes méthodologiques, quand une étude sur 30 400 patients sort, on regarde d'abord son résultat. Mais depuis 48 heures, les attaques coordonnées se multiplient dans les journaux des milliardaires, des oligarques complices de la dérive totalitaire, mais aucun journaliste ne se penche sur les résultats et ne peut les expliquer. Or, en mathématiques, bien sûr, la loi des grands nombres permet d'interpréter une probabilité. Donc, quand, de nouveau, on a une telle masse de résultats, cela lève tout doute que nous pouvions avoir sur l'efficacité des traitements, mais on voit que la propagande est sans limite. Donc, les experts véreux dont je vous parle viennent de créer une association de victimes de traitements précoces qui soignaient, alors qu'ils font la sourde oreille, qu'ils traînent dans la boue et qu'ils dénigrent les victimes de l'injection génique expérimentale qui se comptent par centaines de milliers et par millions en Europe. Voilà, donc là on est au cœur du problème que j'ai décrit en long, en large et en travers. Pierre Corry, médecin américain, lui aussi d'envergure mondiale, a écrit un livre sur comment on a flingué l'ivermectine, où il dit « mais il y a un manuel pour créer de fausses études, attaquer des études qui sont justes, faire de la propagande et de la manipulation, corrompre les responsables politiques et médiatiques. Tout ça est documenté. J'en ai parlé notamment dans ma conférence sur la corruption dans le domaine de la santé de Lisbonne et Marseille. » Et Pierre Corry continue en disant « mais ces injections géniques expérimentales n'ont sauvé personne. » C'est la plus grande fraude à la consommation de toute l'histoire. Jamais encore un produit inefficace et dangereux, à haut risque, n'a été poussé et promu de manière aussi agressive en incluant toute une série de mensonges pour le promouvoir et de la désinformation pour détruire la compétition. Et c'est à cela que les auteurs de ces tribunes lamentables continuent de se livrer. J'ai déjà dit dans les émissions de cette chaîne, on a eu la confirmation depuis que la moitié des gens morts en hôpitaux l'ont été à cause de surinfections bactériennes. C'est connu depuis la nuit des temps et la grippe espagnole. L'immense majorité des gens décédés de la grippe espagnole sont morts de surinfections bactériennes et non pas du virus. Et en dépit du fait qu'on savait ça, en interdisant de les soigner avec l'azithromycine, qui est l'antibiotique de référence, eh bien, on a laissé mourir la moitié des patients hospitalisés. Et c'est ce meurtre là que essaye de couvrir ces malfrats. Rissa Berkane relève par contre qu'on a prescrit massivement du remdesivir, molécule toxique et inefficace contre le Covid, là c'était pas un essai clinique sauvage. Et Molimard, qui est un des signataires, un des conjurés de cette cacade, lui a osé affirmer devant 1 million de téléspectateurs que l'hydroxychloroquine augmentait de 13% le risque d'être intubé, ventilé ou de décéder, ce qui était une foutaise. Absolument aucune publication à l'appui, ça a été repris par le réseau des médias crapuleux, les analyses étaient faussées. Et regardez à quel point ce pauvre monsieur s'est enfoncé. On peut dire maintenant, tweetait-il au mois de mars 2021, que non seulement les vaccins préviennent la survenue des formes symptomatiques, mais aussi qu'ils préviennent les formes asymptomatiques. Assez génial. Les gens pas malades ne tombent pas malades à cause d'une injection qui ne marche pas. Bravo. Et ça casse, disait-il, la dynamique de l'épidémie. Tout le monde sait depuis que c'était faux. Mais voilà, Mathieu Molibard n'est pas là pour chercher la vérité ou faire comprendre des réalités aux gens, mais pour protéger des intérêts mafieux auxquels il est manifestement assujetti. Il est en lien d'intérêt direct avec un ensemble de laboratoires pharmaceutiques et il n'a cessé d'insister pour que l'on inocule les enfants qui n'avaient aucun risque. Je rappelle, dernière donnée d'Israël, pas un seul mort du Covid en dessous de 50 ans qui était en bonne santé. Donc les enfants, les jeunes adultes, il fallait surtout pas les toucher. Mais qu'a fait M. Molimard ? Eh ben, il n'a cessé de militer en ce sens, bien sûr. On comprend la motivation qu'il peut avoir. Et il a sorti énormité sur énormité. Écoutez celle-ci. Il n'y a aucun exemple de vaccin qui a induit des effets indésirables à long terme qui ne s'étaient pas manifestés dans les 2 mois après la vaccination. C'est totalement faux. Le vaccin Johnson & Johnson, 1 année après sa mise sur le marché, il y avait encore de nouveaux effets indésirables qui apparaissaient. Donc ce type est un truand scientifique. Mais il profite de ce qu'il a, le monopole de la parole sur un certain nombre de médias, pour désinformer de la manière la plus massive possible la population. Intéressons-nous maintenant au professeur Alain Fischer, qui est donc en charge de la politique soi-disant vaccinale, une injection génique expérimentale n'est pas un vaccin, de la population. Et imaginez, ce type est l'auteur de l'escroquerie du siècle « Tous vaccinés, tous protégés ». Et en dépit qu'il a sorti une énormité pareille, démentie de manière brutale par les faits, il est devenu président de l'Académie des sciences. Donc sachez-le, les sciences aujourd'hui, c'est la capacité de délirer et de dire tout et n'importe quoi. Et il a mis en œuvre toute cette propagande en expliquant « Oui, mais les jeunes ont des troubles psychiques à cause de ce qu'on leur a infligé. Donc s'ils se vaccinent, ils participeront à l'effort collectif qui permettra de mettre l'épidémie derrière nous. Donc il faut absolument les inciter à se faire vacciner. » Mais ce qui est une monstruosité scientifique et éthique. Lors d'un récent complément d'enquête qui mangeait pas beaucoup de pain, qui malgré tout s'intéressait à Pfizer, cette boîte multicriminelle récidiviste, Alain Fischer a été interviewé et vraiment a fait une impression détestable, avec une arrogance, une morgue, une absence de compassion, de conscience et de scrupules. Et donc le journaliste lui a rappelé, mais en 2021 vous parliez de fake news en ce qui concerne les craintes de certaines femmes pour leurs règles et leur fertilité, aujourd'hui c'est avéré, donc quid? Et lui disait, ah ouais non, mais on pouvait pas savoir. Alors, déjà, quand on ne sait pas, on ne dit pas fake news, on dit on ne sait pas. Et puis, de surcroît, et c'est ça qui est terrible, c'est que c'est faux. Comme Hélène Badoul, qui vraiment suit très attentivement ces choses, le montre, on savait dès 2021, par la NSM, que les vaccins occasionnaient des désordres menstruels. Et tous les signaux figuraient dans les plateformes de pharmacovigilance. Et donc, quand Alain Fischer vient dire ça sur le plateau de complément d'enquête, il continue de mentir. Le responsable de la politique soi-disant vaccinale anti-Covid en France ment et accumule les mensonges Et Barbara Stiegler, une autre brave, réagit elle aussi en disant « Mais pour ce type, il y a un an, ces troubles n'étaient que des fake news fabriquées par des femmes complotistes. Il les qualifie aujourd'hui de bénins. » « Ah oui, mais c'est bénin. Il ne fait que s'enfoncer. » Attendez. Il y a des femmes qui ont des saignements hémorragiques terribles. Il y en a dont on pense qu'elles perdront à tout jamais la capacité d'enfanter. Et dans son confortable fauteuil arrosé par les millions qui pleuvent de toutes parts, Monsieur Alain Fischer dit « Non, mais ça, c'est bénin. » Il faut vraiment mesurer le côté odieux de la chose. Alors, ne lâchons pas en si bonne mesure. Michel Kuki, docteur en médecine et en sociologie, les essais cliniques sabotés, l'efficacité négative du produit que vante M. Fischer, le rôle de la défense états-unienne dans la création de ces produits ont échappé à complément d'enquête comme au docteur Fischer, qui, lui, après son éloge au professionnalisme de Pfizer, condamné à répétition pour des crimes divers et variés, réserve ses propos désagréables au personnel suspendu. Jean-Yves Capot souligne que l'enquête était relativement bonne, mais avec une intervention déplorable de M. Fischer, qui n'a aucun visage, il est encore dans le déni de la plupart des effets secondaires, présenté comme un super pro, c'est en fait un ahuri. Et puis, rappelons quand même le primum non nocere, et on n'impose pas, on ne pousse pas à recevoir un produit dont on ignore les effets. On ne sauve pas des vies en médecine en détruisant d'autres, mais cette notion éthique, le docteur Fischer a choisi de la mettre de côté. Je crois juste qu'il est complètement incapable de ça. Corruption intellectuelle ou corruption tout court, l'un n'est pas forcément exclusif de l'autre. Alors rappelons, il faut toujours revenir à la philosophie, à la sagesse et au discernement, Pentecôte ou pas, mais surtout le jour de la Pentecôte, hein. Alexis Haupt, le covidisme est à la médecine, ce que le terrorisme est à la religion, une idéologie extrémiste où les fanatiques hébétés font la chasse aux infidèles. Rappelons que contrairement à ce que disaient M. Fischer et ses collègues, les données de pharmacovigilance sont extrêmement inquiétantes. Regardez Jessica Rose qui est mathématicienne et immunologiste, qui, sur les données officielles, montrent les données de mortalité liées au vaccin depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, et ça a explosé, sachant que la sous-déclaration est reconnue dans la science comme devant multiplier par 20, au minimum, les chiffres que vous voyez là. Donc, 13 385 décès liés au vaccin en 2021, l'imputabilité d'après les bonnes recherches est de 84%, donc on réduit ça à peu près 11 000, et après vous faites x20 pour voir le nombre de vies qui ont été tuées parce que des gens comme M. Fischer et Molimar couvrent ce crime, et avec une logique qui malheureusement se laisse comprendre. Je ne parle pas d'eux personnellement, ils sont de toute évidence au cœur de la corruption systémique, mais c'est devenu aujourd'hui le mode par défaut de cette épouvantable médecine qui n'a plus de médecine que le nom. Et je terminerai en rappelant le rôle des médias. On se souvient de Jérôme Béglé sur le plateau de l'heure des pros qui venait faire le signe « Mais taisez-vous !» alors qu'on évoquait la question des effets indésirables du médicament.
Que la vérité...
Je veux dire, le vaccin n'empêche pas la transmission. Vous êtes quand même d'accord là-dessus, j'espère.
Pardon, Jérôme, je voulais...
Personne...
Ces gens-là sont-ils des journalistes? Sont-ils des propagandistes? Sont-ils des dignes héritiers de Goebbels? En ce qui me concerne, leur langage non-verbal nous donne un certain nombre de pistes à ce sujet. À demain.